Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 157. Comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, on a deux gros sujets sur la planche aujourd'hui. Il y en a un qui est peut-être un peu plus gros que l'autre, mais on va discuter de tout ça. Le premier sujet, ce sera l'Ukraine et le rôle de l'Union européenne et des vraies peurs au sein de l'Union européenne avec les négociations américano-russes et ukrainiennes. Et le deuxième sujet, ce sera les élections fédérales en Allemagne. C'est aussi un autre gros sujet, puisqu'il y a tellement de tenants et aboutissants par rapport à cette élection. Mais partons d'abord sur notre premier sujet, l'Ukraine. Alors, il s'est passé énormément de choses ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça va être difficile de résumer tout ça. Mais partons simplement du fait que, à Riyad, en Arabie Saoudite, les États-Unis ont convoqué la Russie, donc le ministre des Affaires étrangères Rubio américain a convoqué entre guillemets ou a rencontré Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Qu'est-ce qu'on sait de ces discussions? Parce que au plus haut point, une alliance Trump-Poutine, c'est ce qu'il y a derrière, possible. Ça peut faire froid dans le dos à certains au niveau européen.
La réunion de Riyad, Christophe, elle a pour but principal de mettre en place un mécanisme de consultation pour régler les contentieux entre la Russie et l'Ukraine.
Donc on n'attendait pas un cessez-le-feu, on n'attendait pas forcément énormément, instantanément, au sortir de cette réunion.
On est encore à l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'on est à l'étape des négociateurs en vue du règlement du conflit en Ukraine. Mais c'est déjà une grande étape, Christophe, parce que c'est ramener, alors j'allais dire, les belligérants, mais c'est faux. C'est en tout cas un des belligérants autour de la table pour envisager justement l'arrêt des conflits. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que pour les Américains, l'idée, c'est une fin permanente à la guerre. Ce n'est pas un cessez-le-feu temporaire, comme ça a été déjà le cas et comme ça a été discuté dans le passé. Donc, ce qui se passe là, c'est quand même une étape importante après 3 ans de guerre, c'est d'arriver à une solution politique pour l'arrêt des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, avec encore une fois, je le rappelle, un seul des belligérants, en l'occurrence la Russie.
C'était ma prochaine question quand j'ai allumé le micro. C'est assez unilatéral quand même. Tout le monde n'est pas autour de la table. Les Ukrainiens n'y étaient pas. Et d'ailleurs, il y a quelques heures, le président Zelensky a décliné l'offre de venir lui-même à Riyad pour discuter aussi. Donc c'est vraiment très unilatéralement orienté avec la Russie aujourd'hui, l'agresseur.
Alors, faut faire non pas un pas de côté, mais un pas en arrière, parce qu'en fait, au même moment où la Russie et son représentant des affaires étrangères est à Riyad en compagnie des Américains, Zelensky, du côté donc ukrainien, lui se trouve en Turquie avec Erdogan et chou blanc d'une certaine façon pour les Européens qui, eux, se font un petit mini sommet à part avec des représentants de l'OTAN et von der Leyen, donc de l'Union européenne. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, effectivement, à Riyad, c'est assez unilatéral, puisque seuls les Russes y sont. Mais c'est parce que derrière cette réunion, il y a aussi tout l'affrontement dans la région pour devenir ou redevenir, pour certains, en l'occurrence la Turquie, une puissance régionale. D'un côté, l'Arabie saoudite, de l'autre, la Turquie. Et on voit bien qu'en fait, au-delà de la solution et du règlement du conflit, c'est véritablement le poids de ces puissances régionales qui est en train de se jouer. Et ce qui est intéressant du côté aussi américain, Christophe, c'est que Trump n'est pas en Arabie Saoudite par hasard. Un des premiers, j'allais dire, projets de Trump, de son nouveau mandat, c'est notamment le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, mais aussi au Proche-Orient, entre Israël et l'Arabie Saoudite. Donc la venue de Rubio et l'affichage Arabie Saoudite-États-Unis n'est pas pour rien. Mais de l'autre côté, on ne veut pas se laisser faire et on veut aussi affirmer qu'on est encore une puissance régionale. Et d'ailleurs, les Turcs le jouent très bien. Ils disent que le règlement du conflit ne se fera qu'avec une Union européenne ou une Europe élargie, c'est-à-dire qui inclut aussi le Royaume-Uni, puisque maintenant ils ne sont plus dans l'Europe, et aussi la Turquie.
Alors c'est super intéressant parce que on sent que, alors peut-être d'un point de vue extérieur, et corrigez-moi si j'ai tort, mais on sent que l'Europe est peut-être encore en train de perdre un peu de la vitesse quand même là. Il y a une espèce de machine, alors je vais pas dire de guerre parce que ce serait un mauvais jeu de mots, mais il y a une machine américaine qui s'est mise en route sur la volonté d'avoir de régler ce problème. Donald Trump l'avait dit, je peux le régler en deux jours de mon mandat, ou trois jours, ou quatre jours, etc. Bon, on en est un peu plus que ça, mais la réalité est que la machine s'est mise en route du côté américain. Elle a choisi aujourd'hui un camp plus qu'un autre, en tout cas une direction plus qu'un autre, ce qui peut faire peur aujourd'hui à l'Europe, ce qui peut faire peur aujourd'hui à l'Ukraine, je suppose.
Le positionnement américain, Christophe...
Oui, il est compliqué.
Non, mais il est compliqué, mais aussi il n'est pas totalement illogique, parce que jusqu'à présent, l'Union européenne, et depuis le début du conflit, en fait, ne parlait pas à la Russie, ne voulait pas d'une solution qui donnerait raison à Poutine. Et d'ailleurs, c'est ce que encore la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a réitéré. Elle a dit, elle a appelé les États-Unis à ne pas, et là je la cite, à ne pas tomber dans les pièges russes. Donc en fait, d'une certaine façon, il y a un trou, il y a une opportunité dans laquelle les Américains s'engagent, parce qu'encore une fois, les Européens, ils sont absents. Les Européens, ça fait 3 ans qu'ils aident Zelensky, mais ça fait aussi 3 ans qu'il y a des pourparlers, des prises de position qui ne sont pas forcément unanimes. Juste un exemple, l'envoi de troupes au sol, c'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union européenne.
Encore aujourd'hui. Hein.
Encore aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas étonnant que les États-Unis, finalement, prennent une autre alternative qui est celle, non pas d'afficher leur soutien, parce qu'ils ont soutenu d'un point de vue financier, militaire, Zelensky, mais ramener aussi Poutine autour de la table. Maintenant, la question, c'est, j'allais dire, chaque acteur a ramené un des co-belligérants autour de la table. L'idée, ce serait de mettre ces deux co-belligérants autour de la même table.
Mais ça va arriver à un moment ou un autre. Il n'y a pas de guerres qui sont infinies, hein, ça c'est certain. Quand on parle des troupes, c'est intéressant aussi de comprendre qu'au sein de l'Europe, bon, et élargissons un petit peu le débat européen en incluant les Britanniques aussi dedans. Les Britanniques, les Français sont plutôt favorables à un déploiement d'une force de paix un peu sous forme, alors que ce soit sous les casques bleus ou sous différents types. En tout cas, un déploiement d'une force de paix en Ukraine pour sécuriser un potentiel cessez-le-feu. De l'autre côté, on a l'Allemagne, on en parlera dans le deuxième sujet, mais on a l'Allemagne et les Espagnols qui, eux, sont totalement opposés. Donc, au sein de l'Europe, et on parle de pays qui sont très influents au sein de l'Europe. On parle de la France, on parle de l'Allemagne, on parle de l'Espagne. C'est des pays qui sont aujourd'hui totalement aux antipodes de juste pouvoir déployer ou non une force de paix en cas de cessez-le-feu. On en est à ce niveau-là.
Il y a effectivement une ligne de rupture, une dissension entre les positions européennes. Il y a d'un côté, effectivement, la France et le Royaume-Uni, qui eux ont exprimé leur soutien à l'envoi de troupes au sol, très clairement. Et donc, c'est intéressant aussi pour le Royaume-Uni de réintégrer le jeu des alliances
et
européennes.
Et pas de combat, c'est en cas de cessez-le-feu.
En cas de cessez-le-feu, effectivement. Et puis de l'autre côté, on a, et là on cite que les gros pays européens, mais on a l'Allemagne, l'Espagne, mais aussi la Pologne.
Oui, tout à fait.
Qui est un cas intéressant, qui eux estiment que pour l'instant, c'est tout à fait prématuré de mettre cette mesure de troupes au sol sur la table. Et la position de la Pologne est d'autant plus intéressante que une des grandes critiques qui a été faite à l'initiative américaine, c'est de dire que ces discussions donnaient raison à Poutine et qu'on n'est pas à l'abri dans quelques années, notamment dans le cadre d'un retrait de l'OTAN ou d'un affaiblissement de l'OTAN, bah de voir une attaque des Pays-Baltes, donc de voir en fait une attaque aux portes de la Pologne, ce qui est déjà le cas en fait avec l'Ukraine.
Avec l'Ukraine, oui.
Donc la position polonaise, elle est aussi intéressante. Est-ce que c'est pour ménager le voisin russe? Mais en tout cas, c'est aussi l'illustration qu'il y a de la place pour les Américains dans ce débat-là, parce qu'encore une fois, malgré le fait d'avoir une chef de la diplomatie, malgré le fait d'avoir une présidente de la Commission européenne, malgré le fait d'avoir des positions qui sont aligné sur le soutien financier à Zelensky, il y a encore des dissensions trop fortes au sein de l'Union européenne pour que l'Union européenne, en tant qu'acteur, puisse résoudre l'intégralité de ce conflit.
Mais une des clés aussi, c'est que le gouvernement Trump, donc les Américains, ont annoncé qu'ils allaient quasiment couper leur aide aux Ukrainiens. On sait que ça a été globalement eux qui ont donné énormément aux Ukrainiens sous le gouvernement de Biden. Ça, petit à petit, ça va s'atténuer jusqu'à probablement pas grand-chose. Derrière, il y a l'Europe qui a aussi participé à l'effort de guerre ukrainien. Aujourd'hui, l'Europe est mise devant ses responsabilités de devenir le grand frère de l'Ukraine ou pas, et de reprendre aussi une part du rôle que les États-Unis laissent derrière. Et ça va faire trembler en Ukraine, à Kiev.
Ah, ça fait trembler parce que
Parce qu'on n'est pas sûr que l'Europe puisse même faire ça.
Bah, déjà, en fait, ce qui est pour l'instant presque figé dans le marbre, j'allais dire, c'est la position russe, mais qui est en fait pour le coup assez alignée. Et là, il y a un axe poutino-trumpien qui est de dire que... et c'est intéressant d'ailleurs les mots qu'ont utilisés les Russes à ce niveau-là. C'est de dire que l'Ukraine est un État souverain pour décider ou non s'ils veulent intégrer l'Union européenne. Ça, c'est à l'Ukraine de décider s'ils veulent rejoindre une union politique avec ce que ça implique sur la liberté de déplacement des hommes, des capitaux, etc. Par contre, les Russes, mais les Américains aussi d'une certaine façon, sont fortement opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN.
Absolument.
Et donc ce que ça veut dire, c'est que les Russes, en fait, voient d'un très mauvais œil une OTAN forte aux portes de la Russie. Et ça arrange bien les Américains qui le disaient déjà il y a quelques mois et qui le disent encore de manière plus assertive avec, avec Trump. L'OTAN va de plus en plus, et malheureusement, devenir une espèce de coquille vide où les Européens devront eux seuls assurer la défense du vieux continent sur le vieux continent.
Et donc, ça extrapole la question d'une armée européenne, des choses qui sont déjà en suspens depuis des décennies en fait.
C'est toujours la même, j'allais dire,
la même chanson. Hein.
La même chanson. C'est la cohésion, la construction politique de l'Europe. Il y a une Europe économique, il y a une Europe de la liberté de circulation des biens, des capitaux, des marchandises. Mais est-ce qu'il y a une Europe politique, c'est-à-dire slash, est-ce qu'il y a une Europe diplomatique, est-ce qu'il y a une armée européenne, est-ce qu'il y a une défense européenne?
Ça pose la question de jusqu'où on peut pousser le projet européen, jusqu'où il peut aller. Là, on a atteint déjà des limites.
C'est un test, Christophe, c'est un test grandeur nature. Quand les Américains, pour le schématiser un petit peu pour nos auditeurs d'Europa Voice et l'SBS, quand les Américains se retireront complètement de leur base de l'OTAN en Pologne, est-ce que l'Europe sera capable d'asseoir et d'avoir une armée capable de défendre ses frontières aux marges de l'Europe? Et on a bien vu que la Russie était en train de tester l'Europe d'une certaine façon, avec déjà les frontières avec les pays baltes, la frontière, tout ça, on voit bien que la Russie est déjà en train de tester l'Europe. Et donc c'est pas un cadeau évidemment que fait la Russie à l'Union européenne, mais c'est presque aussi mettre l'Union européenne devant ses responsabilités de savoir si le projet politique européen, qui est un projet jeune, hein, Christophe, projet européen, il a un peu plus d'un demi-siècle, donc c'est très jeune comme projet politique. Mais est-ce que l'Europe, d'une certaine façon, et là je vais être un peu caricatural, est capable d'être un empire, de la même manière que les États-Unis sont encore un empire, d'une certaine façon, avec leur influence dans le monde aujourd'hui, que la Russie est encore un empire, et qu'on est en train de voir au Proche-Orient et au Moyen-Orient une espèce de bataille justement des empires, et là on l'a illustré avec la Turquie d'un côté. En fait, c'est Turquie-Qatar d'un côté et Arabie Saoudite de l'autre. Et on pourrait rajouter même l'Iran dans le mix. Et donc ça, c'est aussi un vrai questionnement pour l'Europe. C'est est-ce que finalement, avec la décision aussi souveraine des États-Unis de ne plus soutenir l'OTAN, ce qui est leur droit, est-ce que l'Europe est capable d'assurer sa défense à ses propres frontières?
Eh ben, on aura tellement à parler dans les semaines et dans les mois à venir sur ce sujet. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie d'Europa Voice.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Deuxième partie d'Europa Voice. Je suis toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler de, une autre de nos Madeleine de Proust, on va dire, dans cette Europa Voice. Les élections en Europe, élections fédérales en Allemagne. C'est compliqué en Allemagne, ce qui se passe. Et il y a des belligérants aussi qui viennent un petit peu ailleurs. Elon Musk qui essaye de mettre un petit peu son nez dans ces élections-là. Alors expliquez-nous un petit peu les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne avec ces élections à venir.
Alors, il faut revenir, à septembre dernier, quand la coalition sortante qui est menée par l'actuel chancelier social-démocrate, donc c'est le parti nommé SPD, Olaf Scholz, cette coalition, elle avait donc le SPD, les sociaux-démocrates, les écologistes et les libéraux. Alors, c'est une coalition, je veux dire, peut-être un peu bizarre pour nos auditeurs francophones, mais en tout cas, cette coalition qui était justement déjà un peu contre nature, a volé en éclats à l'automne dernier à cause de dissensions sur les questions à la fois budgétaires et économiques. Et le ministre des Finances en a fait lui-même les frais. Le ministre des Finances, lui, faisait partie des libéraux, il en a fait les frais. Christian Lindner, et il a été limogé par le chancelier. Cette coalition qu'on appelait la coalition tricolore, parce qu'elle est rouge, verte et orange, elle est maintenant mise en minorité à l'Assemblée en Allemagne. Et donc, le chancelier Scholz a dû de fait avancer les élections législatives qui auront lieu le dimanche qui vient, et donc qui verront si cette coalition avec une forte, j'allais dire, marque des sociodémocrates sera capable de nouveau de gouverner le pays ou si ça repasse de nouveau du côté de la CDU et donc des conservateurs en Allemagne.
Et bien entendu, derrière tout ça, il y a le rôle de l'extrême droite, de la montée de l'extrême droite également en Allemagne. Et on sait avec l'histoire, quand on s'y intéresse un petit peu de près ou de loin, que ça n'a jamais été un bon signe en Allemagne quand ça s'est passé. Aujourd'hui, cette montée de l'extrémisme, elle surprend encore ou aujourd'hui c'est un fait accompli et il va falloir gérer, il va falloir dealer avec ça?
Alors c'est effectivement une très bonne remarque, Christophe, parce que pour l'instant je ne l'ai pas mentionné, parce que a priori, ce n'est pas le parti de l'AFD, hein. On parle de l'AFD, ce n'est pas le parti qui sera majoritaire. Mais la question, c'est de savoir si ce sera le parti qui obligera à faire une coalition, encore une fois, contre nature, mais donc à faire une coalition avec l'extrême droite. Donc la question, ce n'est pas est-ce que l'extrême droite sera vainqueur du scrutin,
non,
est-ce que l'AFD
pas.
Sera vainqueur du scrutin.
Mais c'est
que
le rôle de cette...
C'est le rôle, c'est exactement ce qu'on disait en France. Est-ce que le Rassemblement National aura ce rôle de faire sauter ou pas une coalition? Et là, c'est exactement la même chose pour l'AFD, parce que si la dynamique du chancelier sortant et des sociodémocrates est en pente descendante, celle de l'extrême droite en Allemagne est absolument ascendante. Les derniers sondages créditent l'AFD de plus de 20% des voix. C'est énorme. Et c'est énorme, et c'est, comme vous l'avez rappelé, extrêmement symbolique en Allemagne. On avait déjà passé un cap il y a quelques années, Christophe, avec les premiers justement députés AFD qui étaient revenus dans les assemblées régionales en Allemagne. Ça avait déjà été quelque chose de très symbolique. Là, il n'est même pas question de savoir si l'AFD ne sera pas
au Bundestag,
mais la question de savoir quel rôle ils auront. Et puis, dernier élément que vous avez aussi brillamment mentionné.
Monsieur Elon Musk.
C'est exactement, c'est presque une campagne. Non pas
il y a pris part.
Mais c'est une campagne pour... encourager les Allemands à aller voter pour l'AFD.
Je voulais qu'on en discute deux minutes de ça, parce que il a pris position, il a pris le micro par une liaison satellitaire, hein, dans ses propres satellites a priori, dans un des meetings de l'AFD. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant en tant que tel, parce qu'il a fait la même chose en Royaume-Uni. Donc Elon Musk se positionne vraiment à la droite de la droite. Quel impact il peut avoir aujourd'hui, Elon Musk? Est-ce que pour l'AFD, c'est un atout ou c'est pas un atout?
Moi, je dirais que c'est un atout, Christophe. C'est un atout parce que aussi un des thèmes...
On parle d'eux déjà.
Déjà, c'est quand même une caisse de résonance qui est énorme. Deuxièmement, Elon Musk, malgré les critiques, il a quand même le vent en poupe en ce moment dans l'administration Trump. Et la campagne allemande, elle arrive quand, j'allais dire, on est encore dans cette période, vous savez, la période post-élection, on parle toujours des 100 jours de grâce.
Ouais.
Là, on est en plein dedans, hein, pour l'administration Trump et Elon Musk. Donc, il bénéficie encore de cet effet collatéral même en Allemagne. Et puis, surtout, un des thèmes de campagne de ces élections allemandes, c'est l'immigration. Et c'est l'immigration aussi dans un contexte où il y a encore eu un attentat au couteau.
À Munich.
À Munich, c'était un attentat à la voiture Bélier. Mais on a eu aussi un autre attentat au couteau en Autriche. Enfin, vous voyez, on a le thème de l'immigration qui forcément est une pépite, excusez-moi l'expression, mais qui est une pépite aussi pour Elon Musk. Et donc, les planètes, les étoiles sont alignées en tout cas par rapport aux velléités de Musk de vouloir ingérer, enfin de vouloir rentrer cette campagne allemande.
Ce qui fait, peut-être ça va choquer ce que je vais dire, mais ce qui fait Elon Musk aujourd'hui, il démocratise ce débat. Il rend ce débat, entre guillemets, plus acceptable pour la population allemande, qui, du fait de l'histoire, avait du mal à gérer ce passé, on le sait. Aujourd'hui, en Allemagne, le fait qu'il y ait Elon Musk qui rentre dans ce débat, ça rend le débat peut-être un peu plus, entre guillemets, encore une fois, je mets des grosses guillemets, acceptable pour une partie des Allemands. Non ou pas?
Moi, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est plus important. Moi, je pense que...
Vous n'avez pas être d'accord avec moi. Hein,
c'est... De la même manière que les États-Unis profitent d'une faiblesse de l'Union européenne et presque d'une... On n'est pas là pour... Enfin, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais les États-Unis, en ramenant Poutine autour de la table, profitent du fait que les Européens ont refusé d'amener Poutine pour diverses raisons, dont on parlera sûrement dans un prochain épisode, mais ont refusé d'amener Poutine autour de cette table. Et pour moi, l'absence de l'Allemagne, finalement, d'une certaine façon, depuis la fin de l'ère Merkel, l'absence de l'Allemagne en tant qu'acteur de premier plan dans l'Union européenne, c'est dans cette faille-là qu'Elon Musk s'engouffre. Et donc, évidemment, Elon Musk, il a un agenda politique, mais il profite aussi de la faiblesse de la voix allemande. Et ceux qui disent que la voix allemande est représentée par von der Leyen, non, c'est faux. Von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne. Alors, effectivement, l'Allemagne et la France sont encore bien représentées au niveau des instances de l'Union européenne. Mais la voix allemande, le poids qu'avait Merkel en tant que chef du gouvernement, en tant que chancelière, n'est plus là ces dernières années en Allemagne. Et donc Musk, il profite aussi pour dire aux Allemands et pour dire aux électeurs allemands, regardez, si vous voulez que l'Allemagne ait encore une voix à l'échelle européenne, et si vous voulez surtout que l'Allemagne des nations, enfin la nation allemande en tant que pays ne soit pas diluée dans cette Union européenne, il faut donner vos voix à l'AFD. Et c'est donc cette petite musique-là que Elon Musk joue, mais encore une fois, c'est parce qu'il profite aussi des failles et de la transparence de l'Allemagne ces dernières années sur l'échelle européenne.
Absolument. En tout cas, les élections sont en ce dimanche. Donc, on parlera tout ça dans un des prochains épisodes d'Europa Voice. C'est très intéressant parce que les répercussions vont au-delà des frontières des cantons allemands et de la Bundestag. Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.